Genèse chapitre 4, versets 1 à 7. Tout le monde connaît Adam et Ève. Jusque-là, ça va? On se comprend? Ok. Alors, Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Tant mieux pour nous, on est là. Jusque-là, tout va bien. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Gardez bien ça en tête. De son côté, Abel en fit une... Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Alors une histoire qu'on connaît bien, intéressante, et on va relever quelques points. Donc, la première chose, c'est que Caïn, on peut lire, Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Caïn est l'aîné. Caïn est l'aîné et finalement, on se rend compte qu'il va suivre un peu les choses qui se faisaient à l'époque. Ses parents ont cultivé la terre, il va cultiver à son tour la terre. Et le frère, lui, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, je vais m'occuper des troupeaux, je vais m'occuper des animaux de la terre pour me nourrir. Chacun prend son chemin. À l'époque, il n'y a pas de règle établie, Dieu n'a rien demandé à personne, mais Caïn, de sa propre initiative, va dire « Je vais offrir à l'Éternel une offrande ». C'est quand même une bonne initiative, non? Il se dit « Bon, tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu, je vais offrir une offrande à l'Éternel ». De son côté, son frère, il voit faire, il se dit « Moi, pourquoi pas, je ferai peut-être la même chose, c'est peut-être une bonne idée ». Et à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il offre lui-même une offrande du premier-né, comme vous l'avez vu, du premier-né du troupeau et de leur graisse. Et là, on va voir l'attitude de Dieu par rapport à ça. Et c'est ça qui nous intéresse. Quelle est l'attitude de Dieu? Au premier abord, on peut se dire, c'est compliqué quand même, Seigneur. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Mais il y a une raison à tout ça. Et vous voyez au verset, on va voir, « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. » Pourquoi ça? Eh bien, ensuite, il va y avoir une réaction. Vous savez, moi, j'ai des enfants et j'arrive à comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je dise que j'ai mes quatre enfants devant moi et que je fasse un compliment à l'un d'entre eux pour qu'au moins un des trois autres se vexe. Mais pourquoi pas moi? Je fais un compliment sur une chose particulière, sur ce qu'a fait un de mes enfants ou sur ce qu'a dit un de mes enfants, un autre va se vexer. Un autre sera peut-être même jaloux et va commencer à bouder. Pas plus tard qu'avant-hier, un de mes enfants a commencé parce que j'ai complimenté un de mes autres enfants devant elle à avoir un air sombre comme ça. Là, je me suis dit, c'est comme mon collègue Caïn, là, pas content. Pourquoi il favorise celui-là? Et pourquoi lui a droit à un paquet de bonbons et pas moi? Et ça, c'est le cœur de l'homme. Et ça commence dès le début. C'est bien les enfants. Caïn est le premier-né sur cette terre, d'accord? Le fruit des entrailles d'Ève. Et ça commence déjà là maintenant. Il a le joug quelque part des choix et des décisions qu'ont pris les parents, mais finalement, c'est une attitude qu'on retrouve chez nous également. Alors, la réponse, elle est simple. On va lire maintenant Genèse 3, versets 17 à 19. On va voir Adam, ce que Adam a fait, et ce que Dieu a dit, à nouveau. Donc Dieu dit, Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est maintenant avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, et poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc je relis le passage qui est important pour nous. « Tu n'en mangeras pas. » Dieu avait donné un ordre, c'est « Tu ne mangeras pas de ça. » Et parce que tu l'as fait maintenant, le sol est maudit. Et à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Imagine Caïn, c'est la galère pour lui. Cultive le sol. Dieu a maudit la terre. C'est fini l'abondance, où les choses viennent facilement à nous. On ne s'occupe même pas de se nourrir finalement. C'est facile, on ne passe pas des heures à cultiver, tout est simple. Dieu maudit ça et maintenant la majorité du temps que vont passer les gens sur Terre, c'est produire de la nourriture pour pouvoir survivre. Souvent ma femme elle me dit « je passe mon temps à cuisiner ». Je passe mon temps à cuisiner. Ben, je lui dis « il ne fallait pas faire 4 enfants ». Je passe mon temps à cuisiner. Ils passaient leur temps à cultiver, à cuisiner, il fallait survivre. C'est difficile. C'est pas facile pour Caïn. Il subit une malédiction à cause de la désobéissance de ses parents. Et lui, il suit ce que ses parents ont toujours fait. Il cultive la terre. Et c'est dur pour lui. Et là, il vient, il fait une offrande à Dieu et Dieu lui dit, bah, ça m'intéresse pas. Mets-toi à sa place. La frustration, c'est normal qu'il soit irrité. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il va avoir un regard favorable. Il va regarder favorablement l'offrande de son frère, mais pas la sienne. Il ne s'agit pas ici des qualités humaines de Caïn. Il ne s'agit pas ici finalement de son attitude, de l'homme qu'il est. Il s'agit de l'offrande qu'il va amener à l'Éternel. Et l'offrande qu'il amène à l'Éternel, ce n'est pas une offrande que Dieu peut recevoir. Pourquoi ? Parce que c'est une offrande que c'est le fruit de quelque chose qu'il a lui-même maudit. L'intention est bonne. Mais Dieu ne peut pas l'accepter. Sur le fruit de cette semence-là, il y a une malédiction. Et Dieu, ça ne l'intéresse pas. Par contre, Abel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une chose nouvelle, quelque chose qui n'a jamais été fait, qui va être une préfiguration pour nous du sacrifice de Christ. Il va sacrifier le premier-né de son troupeau et offrir la graisse. Et là, Dieu va regarder, il va dire, ça sent bon, ça. Ça, c'est intéressant. Et vous allez voir notre ami Caïn qui va se rebeller. Là, il n'est pas content, il est irrité. Attends, moi j'ai sué. Moi, je fais ce qu'on m'a toujours appris. Et puis, je décide de ma propre initiative de t'offrir une offrande. Et tu n'acceptes pas cette offrande. Et mon frère, là, il me copie. Et lui, c'est favorable. Alors, moi, je ne serais pas content. Qui serait heureux? Moi, je ne serais pas content. J'ai tout donné, là. J'ai sué. Caïn fut très irrité, il arbora un air sombre. Et l'Éternel, il va lui dire une chose. À ce moment-là, Dieu le vient, il lui parle. Mais en fait, pourquoi tu es irrité? Tu as besoin de comprendre quelque chose. Il vient lui parler. C'est son enfant. Il vient lui parler, comme un père. Mais pourquoi tu es irrité? Comme moi, quand je vais voir ma fille, je lui dis, mais pourquoi tu n'es pas bien? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu as cette réaction-là? Et je lui dis, mais si, tu sais, si tu continues dans cette humeur-là, dans cette attitude-là, ça va mal se passer. Vous allez vous disputer et moi, je vais devoir me fâcher sur toi parce que ton attitude ne sera pas correcte. Et bien, Dieu, c'est la même chose qu'il va faire avec Caïn. Il va venir le voir, il va dire, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi abordes-tu un air sombre? Et certainement, si tu agis bien, certainement, c'est sûr que si tu agis bien, tu te relèveras. Tu vas quitter cette irritation et tout ira bien pour toi. T'inquiète pas, ça va aller. Il le rassure. Ça va aller. Abandonne cette pensée. Abandonne ta colère, ton irritation. Et ça va aller. Tout ira bien pour toi. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Et Caïn, il ne va pas écouter ça. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il va continuer dans cette pensée jusqu'à tuer son frère. Et le sang de notre ami Abel, eh bien, c'est le sang de la vengeance qui coule. Et cette vengeance, ben voilà, on la connaît tous, c'est parfois un sentiment qui nous anime. Mais Dieu est clair là-dessus, c'est OK pour les sacrifices. C'est bien de rentrer dans ma présence avec un sacrifice, mais un sacrifice qui me plaît à moi. Pas juste un sacrifice que toi tu penses être bon pour Dieu, pas juste un sacrifice de prière. Seigneur, j'ai jeûné pendant 3 semaines, pourquoi tu ne me réponds pas? Et tu vois mon frère là-bas, il ne fait rien. Et lui, il est béni. Ah, c'est des réactions qu'on a souvent. Ben, c'est les mêmes réactions que notre ami Caïn. Je vois beaucoup de chrétiens qui mettent plus leur foi dans leur discipline de prière, dans leur discipline de jeûne, qu'en Dieu lui-même. Et dès le départ, Dieu veut cette relation avec nous. Et par la suite, eh bien, Dieu va dire, bah, écoute, voilà ce que tu as fait, je t'épargne, mais tu vas quitter ma présence maintenant. Tu seras maudit, il y aura un signe sur lui. Et plus tard, il va lui dire en Genèse 4, verset 12, « Quand tu cultiveras le sol, » donc il parle à Caïn, « désormais, quand tu cultiveras, il ne te donnera plus toutes ses ressources. » C'était déjà difficile, c'était déjà pas facile, mais alors maintenant, il te donnera encore moins. Oh, les conséquences pour lui, c'est difficile, hein. C'est compliqué. Mais Dieu lui a parlé, Dieu est quand même revenu à lui. Mais à nouveau, une deuxième malédiction. Qui a maudit? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui a maudit. Alors il est préférable de craindre Dieu que de craindre Satan. Parce que celui qui bénit, qui maudit, c'est lui là-haut. Alors si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe, c'est suite à la désobéissance d'Adam et Ève. La parole de Dieu nous dit que Satan est un voleur. Il vient pour voler, dérober, tuer, c'est son objectif. Mais il vient dans l'endroit où on lui a laissé du territoire. Et là où on lui a laissé du territoire, c'est au niveau de la désobéissance. Et à ce niveau-là, il peut nous tenter afin de ne plus suivre les voies de Dieu. Et là, il va venir te chercher. Et là, tu vas commencer à être irrité. Il y aura des émotions en toi, il y aura des pensées négatives. Et là, la parole de Dieu te dit résiste, parce que sinon, après, il y a le péché derrière tout ça. Après, il y aura une malédiction pour toi, parce que Dieu va pas t'accompagner dans ce chemin-là. Il ne va pas te suivre là. Il ne va pas te suivre dans ce domaine-là. Ça marche? Donc ça, c'est la réalité. On va aller plus loin et on va lire maintenant Hébreux. Hébreux 11, versets 1 à 6. On connaît bien ce verset aussi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. La première chose, c'est que du visible, on passe aux réalités terrestres. Le problème, quand on est comme Caïn, c'est qu'on parle des réalités terrestres pour aller chercher quelque chose de spirituel. Sauf que Dieu nous dit, c'est par sa parole que toutes choses ont été créées, c'est par sa parole que tu es là. Et puis, sa parole, c'est quelque chose d'invisible, c'est pas vu, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Et que le moyen d'accéder à sa parole et à la réalité des promesses, c'est par la foi. Et nous, on ne veut pas aller chercher quelque chose, une bénédiction, une faveur, en allant puiser dans les réalités visibles, mais en allant chercher dans les réalités invisibles. Et dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre réalité, dans notre siècle aujourd'hui, eh bien, on est des hommes et des femmes. Voilà, on a besoin de voir, on a besoin de comprendre, on a besoin de saisir. Sauf que la foi en l'Éternel est invisible. Et là, on nous dit que c'est par cette foi-là que les anciens ont reçu un témoignage favorable devant Dieu. Ben, moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que c'est des exemples pour toi, c'est des exemples pour moi. Comment est-ce qu'ils ont fait? Et là, on lit la suite. Le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Enoch, c'est la descendance de qui ? C'est la descendance de Cain, puisqu'Abel est mort, Abel n'a pas eu de descendant, il est la descendance de Cain. Le premier meurtrier de l'histoire va avoir un descendant qui, lui, est reconnu comme favorable devant Dieu, agréable à Dieu. Dieu, de quelque chose de pourri, de moisi, du meurtre, a engendré quoi ? La bénédiction, la faveur. Et si vous lisez l'histoire, Enoch a prospéré, a été béni. Dieu est surprenant. Des choses qu'on pense impossibles, il crée de belles choses. Du zéro, il crée un héros. Et ça m'intéresse. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible dans ta vie. Peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu as été désobéissant envers Dieu, peut-être que tu as eu une difficulté, peut-être que tu t'es irrité, peut-être que tu as suivi le chemin de l'irritation, peut-être que tu as suivi un chemin qui t'a éloigné de l'Éden, un chemin qui t'a éloigné de la présence de Dieu. Mais avec Dieu, c'est possible de retrouver sa présence. Enoch, c'est la préfiguration de quoi ? De l'enlèvement de l'Église, l'avènement de Christ. Christ revient, lorsque Christ reviendra, ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi en Jésus-Christ vont ressusciter des morts. Ceux qui sont dans le sein d'Abraham vont revenir à la vie. Et ceux qui sont sur terre, il va dire maintenant les enfants, on part. Il va dire on part. Et notre ami Enoch, c'est celui qui a été agréable à Dieu. Et Dieu a dit, t'es tellement agréable, je te veux maintenant avec moi, on y va. Waouh ! On a la préfiguration en quelques versets de la mort de Christ, du sacrifice, du premier-né. Et plus tard, on a cette préfiguration de Dieu qui va enlever son Église. Moi, je veux être de ceux qui vont être enlevés. Le problème, c'est quand je lis ce verset-là, je comprends qu'on peut être dans la présence de Dieu, qu'on peut croire en Dieu et pourtant pas être agréable à Dieu. Le problème, c'est que ceux qui seront là-haut, c'est ceux qui sont agréables à Dieu. Ah, ça m'interpelle. Seigneur, je peux connaître ta présence. Seigneur, tu peux même me parler. Et pourtant, peut-être que tu vas me dire, je ne t'ai pas connu. Et ça nous rappelle qu'un jour, Christ viendra. N'importe quel moment, il peut venir et il peut venir chercher son Église. Sacré Enoch. Il a eu de la chance, celui-là. De l'invisible, on passe au visible. Et ça, par le moyen de la foi. On a prêché sur la foi active, la foi qui va chercher les choses. Mais je vais vous dire une chose, la foi, c'est ce qui te rend agréable à Dieu quand elle est active. Et la parole de Dieu, Dieu nous dit que la foi, c'est un don de Dieu. Il a mis dans chacun de nos cœurs ce don, ce petit grain-là. Ce n'est pas grand-chose au départ. Il a mis ce petit grain-là. Et il s'attend à ce que tu produises du fruit avec ce petit grain. Et celui qui produit du fruit avec ce petit grain, il va dire, toi, tu es un héros de la foi. Parce qu'avec cette petite chose que j'ai mis en toi, tu as cru simplement. Et ma faveur maintenant repose sur toi. Vous me suivez ? Alors, ça on a lu, très bien, ça on a lu. Adam, voilà, très bien. On va lire maintenant Hébreux 12, versets 23-24 qui nous dit « Vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous. » Celui qui juge, c'est Dieu. À nouveau, quand Satan te juge, il vient dire « t'es comme ci, t'es comme ça », lui, il n'y a aucun pouvoir sur toi. Celui qui juge, c'est Dieu. Celui qui va voir ta vie, qui va peser ta vie, c'est Dieu. C'est lui qu'il faut craindre, la bonne crainte, dire « Seigneur, je veux être agréable à toi. » Celui qui juge, c'est Dieu. Dieu qui est le juge de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Quelques centaines d'années plus tard, milliers d'années plus tard, on nous reparle encore de ce sacrifice d'Abel. Et je vous l'ai dit, le sang d'Abel parle de la vengeance et Christ, son sang, nous parle de la miséricorde et nous parle du pardon des péchés. Jésus, merci parce que tu es le médiateur. Merci parce que j'ai plus besoin de venir faire des sacrifices pour rentrer dans la présence de Dieu. Merci parce que tu es le sacrifice ultime maintenant. Et je peux venir dans ta présence. Tu vas me parler, tu vas me dire les choses. Tu vas me dire quand mon cœur est un peu tortueux. Tu vas me dire, écoute, fais attention là. Là, c'est bon, je t'encourage, continue. Et il va te regarder favorablement. Est-ce que ce n'est pas bon d'avoir l'approbation d'un père en tant que fils et fille? On a besoin de l'approbation de nos parents. Quand un enfant naît sans l'approbation de ses parents, eh bien, c'est difficile pour lui parce qu'il ne sait jamais si ce qu'il fait, c'est juste et correct. On a besoin de l'approbation de nos parents. La Bible nous dit que quand j'accepte Christ, je suis enfant de Dieu. J'ai besoin de savoir si ce que je fais est approuvé de Dieu. J'ai besoin de savoir si ma façon de marcher en Christ est agréable à Dieu. Parce que c'est ça qu'il va regarder. Il va dire, Alex, là c'est bien. Tu as dit ça, tu as fait ça, mais écoute, ton cœur, il n'était pas correct. Et le seul qui peut sonder mon cœur, c'est lui. Même ma femme ne peut pas. Elle peut sentir des choses. Mais celui qui peut sonder mon cœur, c'est lui. Et dans ma relation avec lui, Seigneur, voilà, je te remets ma vie. Regarde en ce moment. C'est compliqué. Regarde en ce moment la joie que je vis en ce moment. Et Dieu, et Jésus va venir, il va te dire, écoute, c'est bien, mais voilà, on va régler ça. Et là, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu suis tes motivations ou tu suis la volonté de Dieu. On dit tous vouloir faire la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu se fait dans la foi. L'œuvre de Dieu se fait dans la foi. Elle ne se fait pas par ta discipline. Elle ne se fait pas par toutes les œuvres que tu vas faire. Elle se fait dans la foi que Dieu a mis en toi. Parce que c'est une partie de lui pour que tu accomplisses ce que tu veux que tu accomplisses. Mais il faut l'écouter. Si tu écoutes seulement tes pensées, ta chair, la Bible nous dit que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et dès qu'il y a une faiblesse, eh bien le péché qui est tapis, là, il veut te dévorer. Mais c'est à toi de le dominer. Et on vit tous la même chose. Ah, lui, il m'a dit ça. Ah, ça pique. Qu'est-ce que tu suis? Tu commences à nourrir cette pensée ou tu dis, je pardonne, Seigneur, je veux suivre ta volonté. Par la foi, je suis ton enfant. Je suis une personne nouvelle. Je suis plus ce désir-là. C'est tous les jours. Quand ma femme, elle me fait une réflexion, parfois, ah, qu'est-ce que je suis? Combien de couples? On parlait avec Chanel. Combien de couples? Divorce, sur-divorce, sur-divorce, sur-divorce. Il n'y arrive pas. Et on discute autour de nous. Si on n'y arrive pas, on se fait du mal. Pourtant, on s'aime, mais on se fait du mal. N'arrive pas à pardonner. N'arrive pas à changer. N'arrive pas à évoluer. C'est la réalité de notre monde. Et Satan, il est là. Et dès que tu rentres, là où il y a un peu de pouvoir, il te bouffe. Il te vole. Il t'égorge. Il te tue. Et bien, toi, enfant de Dieu, tu es appelé à être agréable à Dieu dans toutes ces situations-là. Dire, Seigneur, moi, je veux être différent. Je veux être différent. Je veux réagir différemment. Seigneur, tu vois, mon cœur, c'est terrible en ce moment. J'y arrive pas. Change mon cœur. Change mon cœur. Transforme-le. Je suis disposé. Eh bien, c'est difficile. Hein. Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Moi, je peux te dire que quand ça pique, ça pique. Hein. Quand il y a un combat, c'est difficile. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de changer. De toute façon, j'ai raison. Et Dieu dit, ben non, tu n'as pas raison. Parce que ton cœur, là, ça ne va pas du tout. Il est partagé. Il est partagé. Si ton cœur est partagé, même si tu es bien intentionné, eh bien, ça mènera où? Ça mènera à la mort. Vous avez tous subi le manque de sommeil. Ça vous est déjà arrivé de manquer de sommeil pendant une certaine période? Il y en a qui manquent de sommeil toute leur vie même. Ils doivent apprendre à vivre avec ça. Alors là, il faut beaucoup de joie dans le cœur. Hein. Alors le manque de sommeil, tu sais ce que ça produit? Ça produit que tu commences à être irrité. Ah là là, les formes, la politesse, tu commences à... C'est difficile, hein? Et si ça dure, ça commence à jouer sur ta santé. C'est compliqué, c'est pas facile. Tu peux avoir des difficultés. Et bien la Bible nous dit qu'on vit par la foi. S'il y a un manque de foi dans ta vie, tu vas t'endormir. Et tu vas commencer à être irrité spirituellement. Seigneur, tu vois telle situation. Et là, je suis frustré. Et là, ceci, regarde-lui, tu vois. Ben ça, c'est l'endormissement spirituel, ça. l'irritation qui vient. Et après, il y en a un qui vient qui dit, hey, mon gars, je vais te choper maintenant. C'est là où je vais venir te saisir. Il faut se réveiller. On va confirmer ça par le verset Jean 10, verset 9 à 11. « C'est moi qui suis la porte, Jésus dit. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. » À nouveau, on parle de nourriture. Il faut pouvoir se nourrir spirituellement. En Christ, tu peux vivre cette abondance. Tu es bien, tu as la joie, tu as la paix. Tu es libre de toute chose. Même si ça se déchaîne autour de toi, même si tu ne dors pas, tu es en Christ et le Seigneur te fortifie. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le sacrifice a été fait. Alléluia. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté, ce qui est bon et agréable et parfait. On a tous servi Dieu avec de bonnes intentions et pourtant, parfois, on s'est trompé. Dieu nous a dit, je ne t'ai pas demandé de faire ça, je ne t'ai pas demandé de réagir comme ça. Et puis voilà, on n'est pas dans ces choses-là. Et Dieu nous dit, je veux que ta vie soit un sacrifice, je veux que ton cœur soit disposé à moi, je veux que tu marches par la foi, que tu fonctionnes avec moi, et là, tu seras agréable. Alors, on va voir maintenant concrètement ce qui s'est passé. On va lire un petit peu avec Jésus. Vous allez voir que c'est par la foi qu'on obtient les choses qui sont invisibles, et que c'est par la foi que les choses invisibles vont impacter ma réalité. Vous savez qu'on a dans Actes, on a le verset 29, chapitre 4, verset 29 à 31. J'aime beaucoup ce passage. On en a parlé ce matin. Ça fait déjà plusieurs semaines, c'est sur ce verset sur lequel on s'appuie pour la prière. Vous avez Pierre et Jean, d'accord, et ils vont parler à Dieu, ils vont prier, ils vont dire, tu vois ce qui se passe ? On est persécuté, on est bloqué, on ne peut pas parler de toi, on nous fait toutes les misères du monde. Mais Seigneur, et là il va dire, et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je peux mettre le verset suivant. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a une question de Seigneur, tu vois la réalité. C'est plus possible. Il faut que toi, tu étendes ta main. Ils mettent leur foi en qui ? Ils mettent leur foi en Dieu. Et ils disent là, on est limité. Mais toi, du ciel, étends ta main. On passe de l'invisible à la réalité. Étends ta main pour que dans ma réalité, il se passe des signes, des prodiges. Ce n'est pas l'inverse. C'est étends ta main, c'est du ciel vers la terre. Ce n'est pas de la terre vers le ciel. C'est des promesses qu'on appelle, Seigneur, étends ta main par le nom de ton saint serviteur, Jésus-Christ. Lui en qui la puissance est là. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que j'y crois réellement ? Il y a des chrétiens, je vous le dis, ils croient plus en la puissance de leur prière. Il a la puissance dans la prière. Il a la puissance dans le jeûne. Il a la puissance dans ma consécration. Il n'y a aucune puissance dans tout ça. C'est ta discipline avec Dieu, c'est ta façon de rester, voilà, de parler à Dieu, c'est ta relation avec lui. La puissance est dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, étends ta main, parce que j'ai beau faire tout ça, eh bien il faut que ce soit toi qui œuvres maintenant. Par ma foi, je mets ma foi dans le nom de Jésus. Je mets ma foi dans le nom de Jésus. Ah ben Jésus, je ne le vois pas, tu comprends. Et mets ta foi dans le nom de Jésus. Ne mets pas ta foi dans le pasteur. Alexis va te décevoir. Mets pas ta foi dans les responsables de l'Église. Honore-le et confiance. Mets ta foi en Jésus pour ta situation. Sinon, tu vas être déçu, tu vas être irrité. Je ne vais pas te dire bonjour un dimanche. Ouh là là, tu ne vas pas être content. Je ne vais pas t'inviter à manger, tu vas être triste. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a toujours quelque chose qui va t'appeler ailleurs que là où Dieu t'appelle. Toujours. Mais Dieu répond, Jésus se nourrit de ta foi en lui. Ta foi en mon sacrifice, ta foi en mon sang qui a coulé, mais ta foi en moi, je vais produire quelque chose dans ta vie, un fruit qui demeure éternellement. Pour toi, pour ta famille, pour les générations après, vous allez être bénis. Ça te va? Moi, ça me va. Hein. On a ce verset qui nous dit, Jésus, quand il nous a dit, il a dit, maintenant, il faut que je vous apprenne à prier, qui dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Ce qui est au ciel, par la foi, je l'amène. C'est ma prière, Seigneur. Parce que si je me suis moi-même, ça ne va pas fonctionner. Dernier verset, et je m'arrête là. Ensuite, on va prier ensemble. Vous connaissez tous l'histoire de cette dame aux pertes de sang. Yes, elle entend parler de Jésus. Elle se dit, c'est qui Jésus? Il fait des signes, il fait des miracles. C'est incroyable. J'entends parler de lui. Il faut que j'aille à sa rencontre. Il faut que j'aille le voir. Elle est passée par tous les docteurs, toutes sortes de médecines. On lui a tout fait, mais il ne se passe rien. Et elle va décider, cette dame, de mettre sa foi en Jésus. Et là, tu te dis, c'est bien, je la connais, cette histoire. Mais moi, ma foi, je l'ai déjà mis en Jésus. Je l'ai souvent mis en Jésus, je n'ai rien vu. Et je peux te dire que quand tu mets ta foi en Jésus, il se passe quelque chose. C'est instantané. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle se disait, dans son cœur, dans ses pensées, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » Même si je touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est instantané. C'est la 5G, là. Tu vois, ça va vite. Il n'y a pas de latence. Cette femme a une foi incroyable. Jésus se rendit aussi compte qu'une force était sortie de lui. Moi, ça m'impressionne quand je lis ça. Le gars, il marche. Une femme le touche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une guérison qui s'est opérée. Est-ce que c'est de son initiative à Jésus? Parce qu'on voit beaucoup de guérisons qui sont de l'initiative. C'est Jésus qui en est l'autre, le précurseur. Il va dire, voilà, sois guéri, machin. Mais là, il se dit, il s'est passé quelque chose. Il y a une force qui est sortie de moi. Le nom de Jésus reconnaît la foi. Jésus reconnaît cette foi qui vient de cette femme qui en elle, elle a entendu parler, sa foi est née, elle n'a pas suivi une religion, elle n'est pas rentrée dans un groupe religieux, elle n'a pas fait 3 semaines de jeûne et prière, elle a cru simplement. Si je touche le bord de son vêtement, et là Jésus, il sent une force qui part de l'invisible, se produit maintenant, une guérison qui est visible dans notre réalité. C'est quand même puissant, non? Jésus regardait autour de lui pour voir. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Il y a beaucoup de gens qui le touchent, hein, Jésus. Il y a beaucoup de gens qui vont à sa rencontre. Il y a beaucoup de gens qui le caressent. Mais lui, au milieu de cette foule, il sent que là, il s'est passé quelque chose instantanément. Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ma fille, ta foi t'a sauvée. Christ réagit à notre foi. Quel est le degré de notre foi? On peut conclure que Dieu attend vient venir chercher des hommes et des femmes qui lui sont agréables. La manière d'être agréable à Dieu, c'est de manifester notre foi en lui. Aujourd'hui, ce n'est plus au travers de toutes sortes de sacrifices, ce n'est plus comme Abel. Voilà, c'est tout ça, ça nous montre le chemin, ça nous montre le cœur de Dieu. On voit ce qu'il y a dans son cœur au travers de toutes ces histoires. Aujourd'hui, c'est dans la foi en Christ. Seigneur, une seule fois, tu as donné ta vie. Il n'y a plus besoin que je fasse aucun sacrifice. Maintenant, je peux rentrer dans ta présence. Mais la présence, ça ne suffit pas. Il faut que je vienne à ta rencontre maintenant. Et la rencontre, elle se fait quand notre cœur est changé, transformé, quand on accepte la transformation et que notre foi se manifeste. Où en es-tu avec ta foi en Jésus-Christ, dans ta situation, dans ta réalité? Est-ce que c'est juste croire par habitude? Parce que tu as déjà vu des choses? Parce que tu as été éduqué dans la foi? Ou est-ce que ta foi, elle est active? Et un jour, eh bien, ton nom, il va être écrit, lui, c'est un héros de la foi. Parce que dans telle situation, il pouvait croire à toutes sortes de choses, mais il a choisi de croire en moi. Il a choisi de croire que moi, j'étais le seul chemin, que j'étais cette petite porte. Et que moi, je pouvais faire quelque chose. Lui, c'est un héros. Et je vais le bénir. Même dans ses difficultés, la malédiction n'est plus sur lui. Ah! Moi, ça m'encourage. Hein. Remets tes problèmes à Dieu. Remets Satan à sa place. Et commence à craindre celui qui peut opérer le miraculeux dans ta vie. Commence à mettre ta foi en celui qui peut faire des merveilles. Celui qui te fait passer de zéro à héros. Celui qui transforme les situations. Celui qui abonde en grâce dans les situations qui sont impossibles. C'est en lui que je dois mettre ma foi. Arrête de trop réfléchir. Sonde ton cœur. Seigneur, mes décisions là, elles ont été faites, elles ont été prises à mon initiative parce que voilà, je me sentais pas bien, ceci, cela. Mais prends les décisions parce que Dieu a mis une conviction dans ton cœur, une conviction de foi. Une conviction de foi. On passe de l'invisible au visible. On veut faire la volonté de Dieu. On a lu ce matin à l'intercession, quelle est la volonté de Dieu? Il est que tous soient sauvés, que tous connaissent la vérité. Et toi et moi, on est appelés afin que tous connaissent la vérité. Dieu a mis la foi en toi, il va t'aider dans ta vie, dans ta réalité, mais la volonté de Dieu, c'est que tous le connaissent. Mais comment tu peux prouver à quelqu'un quelque chose si tu ne le vis pas toi-même? Il faut que ta vie témoigne de ce que Dieu fait dans tes situations, dans ta réalité. Amen.
Amen.
Il y a un jour, je termine avec ça, ensuite on va prier. Donc c'est, comme je vous disais, j'ai été guéri de mon dos. Et donc c'était au début de notre mariage avec Chanel. Et donc, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? J'avais quitté médecine. Et puis, je priais. Et je disais, Seigneur, on s'était mariés. J'avais fait des petits jobs pour qu'on puisse vivre, tout simplement, et payer le mariage. Et là, j'arrive en mai, juin, et je me mets à prier. Je dis, Seigneur, maintenant, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire de ma vie. Parce que c'est bon, j'ai des objectifs, je veux atteindre des objectifs, mais je veux faire ta volonté. On se pose tous cette question, hein, les jeunes. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Et donc là, je prie dans la prière et on devait planifier nos vacances. Et je dis à Chanel, moi, je ne peux pas partir en vacances et je ne sais pas ce que je fais en septembre. Et donc elle me dit, OK, c'est bon. Et donc elle va travailler. Et moi, je prie et j'expose mon cœur à Dieu. Et je lui dis, Seigneur, voilà, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je te mets tout ce que je serai capable de faire et pas faire. Tu veux que je fasse un doctorat, je fais un doctorat. Tu veux que je travaille au McDo, je travaille au McDo. Mais dis-moi ce que je dois faire. Je ne veux pas prendre une décision qui vient de moi. Je veux savoir où tu m'attends. Et donc, je prie et instantanément, dans la prière, je reçois, vous voyez, Dieu qui vient me parler, le Saint-Esprit qui me parle, qui me dit, en septembre, tu as quelque chose. C'est tout ce qu'il me dit. Il ne me dit pas ce que je vais faire, il ne me dit pas où je dois aller, mais il me dit, en septembre, tu as quelque chose. Il y a une assurance en moi qui vient. Je dis, waouh. Et donc, on planifie les vacances, je rentre, et là, on me dit, il y a un gars qui fait de la menuiserie En Belgique, voilà, à l'époque, c'est le pasteur Frédéric Albrecht qui me parle de ça. Ben, je dis, écoute, parle-lui, moi, ça m'intéresse. C'est vrai que travailler de mes mains, j'ai toujours eu... Ben, ça me paraît bien et tout. Le bois, j'aime bien. Et donc, OK, ben, la semaine d'après, je suis devant l'atelier. Au moment où je m'avance et que je pose ma main sur la porte, le Saint-Esprit me dit, c'est là que tu vas travailler. C'est clair, c'est net. Il n'y a rien à discuter. Je passe, je fais le tour. Et là, il ne cherche personne, il ne me propose aucun job, il ne m'explique que ce qu'il fait. Et moi, je dis, Seigneur, c'est bon, je commence à chercher l'école parce que c'est en Belgique, c'est compliqué, tout était contre moi. Et finalement, eh bien, je me mets à travailler là. Quelques mois passent et là, j'ai des douleurs dans le dos insupportables, 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 insupportables. Des douleurs, des douleurs, des douleurs, des douleurs. Et donc, je vais voir le médecin. Et le médecin me dit, le radiologue vient et dit, monsieur, votre dernier disque, qui est le disque tampon, qui est le plus gros, est de moitié, et changez de métier. Parce que vous êtes, à l'époque, j'avais 20, allez, c'était juste après le mariage, c'était peut-être un an après, je devais avoir 22 ans. Et il me dit, changez de métier. Vous avez la réalité ? Et vous avez l'invisible qui vous a parlé. Tu crois en quoi ? Et là, je dis, Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas. Et la douleur persiste, 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 persiste. Et là, je me retrouve dans la prière. Je dis, Seigneur, ce n'est pas compliqué. Je m'appuie sur ta parole. Ta parole, tu m'as dit. Tu m'as dit ça. Je m'appuie sur ta parole. Et je devais aller faire un deuxième examen pour voir, pour me faire une infiltration, pour me soulager. Et après, voir s'il y avait quelque chose à faire. Et donc, je dis, Seigneur, quand j'irai faire cette radio, je serai guéri, comme cette femme. C'était la même attitude de cœur. Quand j'irai toucher le pan de ton vêtement. Et donc là, je fais la deuxième radio. Le radiologue vient, il prend la première radio, il prend la deuxième, il dit, monsieur, on ne comprend pas, ce n'est pas votre dos. Il n'y a plus rien du tout. Et là, je suis comme ça, je l'écoute, je le regarde, je ne le crois même pas. Je regarde Chanel et je me mets à pleurer. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ça ? Tu m'as guéri. J'ai pas tremblé, j'ai pas fait le serpent, j'ai pas sauté dans tous les sens. On n'a pas imposé les mains sur moi. C'était moi et Dieu. Je t'encourage, toi et Dieu. Ta réalité est Dieu. Ton combat est Dieu. Et ensemble, on s'encourage. Quand je te témoigne, quand tu me témoignes, ah, il a vécu ça, moi je veux vivre ce qu'il a vécu. Seigneur, c'est peut-être différent dans ma réalité, mais là, il s'est produit quelque chose par la foi. Seigneur, alimente ma foi. Alimente ma foi pour qu'il se produise des signes et des prodiges. Étends ta main, Seigneur. Des fois, c'est plus long, mais ton cœur est en train de changer. Parfois, tu es dans la transformation. Mais au moment où la foi s'allume, c'est instantané. C'est instantané. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est compliqué. Parfois, tu es dans le combat. Seigneur, je veux continuer de mettre ma foi en toi. C'est en toi que je veux croire. Seigneur, parfois, tu utilises la médecine. Regardez, papa, la médecine l'a guéri. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Mais Seigneur, ma foi est en toi. Ça vous va ? Amen.